Nous allons terminer cette petite topic sur la relation. Alors voyez bien comment s'est produit ce cheminement de la relation. Et faites le parallélisme avec la substance. C'est très curieux de voir comment ce principe propre, selon la forme de ce qui est découvert par Aristote, d'abord par Platon, parce que je crois que Platon est le premier qui a introduit dans la philosophie le terme d'ousia, la déesse qui demeure, n'oubliez jamais ça, le logos qui naît à partir du moutos, et le logos le plus magistral, c'est la substance, ça c'est sûr, c'est là où on découvre vraiment ce que c'est que le logos grec, parce que c'est le principe propre, selon la forme, de ce qui est. Et c'est bien ça le logos. Ça commence par le toti eneinain. Et puis ça découvre le principe propre. Vous voyez, génétiquement, c'est d'abord les prédicaments, les attributions. C'est comme ça que le logos naît. Il ne naît pas à partir du nom. Mais s'il naît à partir du legetai, logos legetai, vous voyez bien. Legetai, ce qui est dit. Ce qui est dit, on est en face de la tribu. C'est la tribu qui est dit. Legetai, ce qui est dit, d'où on retire ce qui est dit, c'est la détermination. Puis on a thématisé ce logos, le toti en einain, l'acuité. Et ceci donne en quelque sorte les 10 prédicaments. Manière de dire la chose. Et la première manière de dire cette chose, c'est l'ousia. Principe propre selon la forme de ce qui est. Donc ce passage du legetain, logos, quidité, principe propre selon la forme, l'ousia. C'est toujours intéressant de voir comment génétiquement on aboutit à saisir la racine, la dent de sagesse, hein, qu'on arrache. C'est quand même quelque chose. Et quand elle pousse mal, c'est pas commode. On doit l'enlever brutalement. L'ousia, principe propre. Selon la forme. C'est comme une réduplication sur le logos. Et parmi ces manières de dire, il y a l'ousia et à l'extrémité. Il est dit, il est ad, il est vers quelque chose d'autre. Donc je dirais, voyez, c'est ça qui est très curieux dans le relatif. C'est que le legein, ce qui est dit, d'un autre, toujours, ce qui est dit toujours d'un autre. Donc le legetain, il est relatif. à ma manière de connaître. Il est relatif dans ma manière de reconnaître, de connaître. Le relatif à ce site particulier, c'est ma manière de connaître rejoint l'aspect ontologique du relatif. Puisque le relatif, il est dit aussi tout entier vers l'autre. Il est tout entier vers l'autre. Il n'est pas seulement dit, il est. On passe du legetai au doeinai, ce qui est dit à l'être. Vous voyez ? Alors, c'est très étonnant quand on regarde l'histoire de la philosophie européenne. La substance, chez Platon, chez Aristote, c'est vraiment le fondement de toute la philosophie. La recherche du logos. Pour Aristote, il y a deux grands logos. L'ousia et la loi. C'est les deux grands logos. La loi qui exprime le bien commun. Et qui est le logos par excellence. Toujours la manifestation de ce qu'on doit faire. On voit que la substance assumée par les pères de l'Église en théologie prend toute sa, tout son épanouissement dans le mystère de la simplicité de Dieu. Cette substance première, tout à fait simple. Je crois que ça, c'est le logos maxime étalé. C'est le logos dans toute sa splendeur. Parce que la simplicité qualifie la substance. Je ne peux pas comprendre ce que c'est que la simplicité de Dieu sans regarder le point de vue de la substance. C'est l'aspect premier dans l'ordre de la détermination. Puis la substance, dans la mesure où la théologie se laïcise, va être absorbée par l'idée Descartes. Kant, Hegel, c'est l'idée qui va absorber la substance. Ça, c'est très très net. Donc, on assiste progressivement, j'allais dire, au déclin de la substance. La substance va disparaître dans la philosophie. Cherchez dans Sartre ce que c'est que la substance. L'être en soi. Pas fameux du tout. Et le déclin de la substance s'est fait très vite en scolastique, décadente, après saint Thomas. On a ramené la substance au sujet. Et au fond, c'est ce que Sartre fait. L'enterrement de première classe de la substance, c'est lorsqu'on fait la substance un sujet, l'être en soi. Alors, il n'est plus bon à rien. Et, au fond, la substance est rejetée. Très intéressant de voir cette courbe. Si on veut essayer de comprendre un peu. Et avec la substance, le logos grec disparaît. Cherchez le logos grec dans Sartre. Ce serait une très belle question, ça. Il disparaît complètement. Ce qu'est la chose. Sartre parle encore de quiddité, le mot y est. Mais il n'y a plus rien. Le logos aristotélicien, qui prend toute sa force dans la découverte de la substance, fait apparaître non pas l'antilogos, mais fait apparaître le relatif dans les prédicaments il y a un prédicament qui est le prosti. Le prosti, c'est-à-dire le relatif. Ce qui est vers quelque chose. Vers le pros. Donc le relatif apparaît comme la détermination la plus ténue du legetail. Et cette détermination la plus ténue du legetail, ce qui est dit, vers, attribué, on regarde quel est son être. Et on voit que son être est lui-même tout entier tourné vers. C'est le propre du relatif chez Aristote. Et voyez, il y a, j'allais dire, cette coïncidence, cette rencontre dans les prédicaments du prosti entre le legetai, ce qui est dit, et le to einain, naître. C'est assez étonnant, ça. C'est même une clé merveilleuse qu'Aristote a découvert. Et dans le relatif, la manière de dire et l'être coïncident. C'est en disant qu'on comprend, on dirait ça couramment, ce qui est dit relatif, relatif à quelqu'un. Eh bien, ce qui est le dernier des prédicaments, le plus ténu, dont l'acuité, l'intelligibilité est tout entière tournée vers un autre et qui ne peut se comprendre que grâce à l'autre. Ce n'est pas par soi qu'il se définit, il se définit vers l'autre. Et c'est l'autre qui nous permet de le comprendre. C'est ça le propre du relatif. C'est la balle qui rebondit. Il y a un mur, ça rebondit. C'est très étonnant. Il faut essayer de comprendre ce qu'il y a de tout à fait particulier dans ce prédicament du relatif, du prosti. On voit que progressivement, le prosti est utilisé par les théologiens. Saint Thomas est le théologien de la relation. Ce serait beau du reste, parce que ce serait la rencontre de Thomas d'Aquin et de Hegel. Je crois que Saint Thomas est le grand théologien de la relation. On ne peut pas dire que c'est le grand théologien. Il est le théologien de la substance par la simplicité. Mais il est le théologien de la relation. Au cœur du mystère de la très sainte Trinité, dans sa contemplation de théologien, il montre l'importance de la relation. Ce mystère qui nous dépasse complètement, qui à première vue semble détruire complètement toute intelligibilité. Comment dans la simplicité on trouve la distinction des trois personnes, trois en un, et dans une simplicité absolue. Pour une intelligence géométrique, c'est absurde. On se casse la tête sur la très sainte Trinité. Heureusement que le Père est très doux, alors ça peut aller. Mais autrement, c'est impossible. Comment, dans la simplicité, trouver trois? Qui dit simple dit absolument indivisible. Comment trouver une distinction? Une distinction telle qu'il y a trois personnes. La personne étant l'être le plus absolu qui soit. L'être le plus absolu que je connais, c'est la personne. Et dans cette simplicité absolue de Dieu, ils sont trois. C'est par l'arnation que Saint-Thomas va relever le défi. Il va relever le défi de cette absurdité première devant laquelle on se trouve. J'allais presque dire le scandale de l'intelligence. Plus exactement, le scandale de la raison mathématique. Vous ne pouvez pas baser les mathématiques sur la très sainte Trinité. Impossible. Absolument impossible. Il y a l'éclatement complet. On comprend très bien ce scandale de la raison. D'une raison mathématique qui résonne. On est là obligé de se taire. Thomas d'Aquin qui a perspicacité de l'intelligence découvre comment, dans le mystère de la très sainte Trinité, par la procession, on découvre la possibilité de maintenir la simplicité absolue tout en découvrant la diversité, la distinction. Pas la diversité, la distinction. Par la relation. La relation devient l'instrument intellectuel, le cogitare, l'instrument intellectuel de l'adhésion de foi au mystère de la très sainte Trinité. Il n'y a pas d'autre. Et la relation qui permet de préciser ce qu'est le Père, ce qu'est le Fils, ce que l'Esprit Saint permet aussi de découvrir l'union hypostatique. Découvrir, comprenez dans quel sens, hein? Enlever la contradiction. La relation enlève la contradiction. Pour le mystère de la très sainte Trinité, pour le mystère de l'union hypostatique, pour le mystère de la création. La relation devient, j'allais presque dire, vous voyez, l'instrument dominant de la théologie. Alors il n'est pas étonnant qu'avec la laïcisation de la théologie, qui va se faire progressivement, sans doute par le glissement qui va se faire, la relation transcendantale de Don Scott, on va aboutir à une philosophie de la relation pure par Hegel. Et c'est exprimé magnifiquement avec Hamelin, pour nous. Je prends exprès Hamelin. Parce que c'est la philosophie de la relation. La substance disparaît et il n'y a plus que la relation. Mais toute l'histoire de la pensée philosophique de l'Europe, c'est le déclin de la substance et la splendeur du relatif ou de la relation, c'est plus juste. C'est très étonnant. On pourrait faire un parallélisme entre les deux. Alors il faut chercher pourquoi cela. Pourquoi, d'une part, le déclin de la substance et d'autre part, l'exaltation, la magnificence de la relation. Alors, si vous comprenez ce qu'Aristote dit dans les prédicaments, vous avez la petite clé. Aristote, philosophe grec, me fait comprendre le développement de la philosophie européenne. Par le fait qu'Aristote montre que le legitai relatif assume en quelque sorte le taux Einheim du relatif, je vois comment la pensée peut dominer l'être. Et la pensée domine l'être par la relation. Saint Thomas, à la suite d'Aristote, le dit quand il dit que la relation est ou une relation réelle, prédicamentale, ou une relation de raison. Vous voyez donc, dans la relation, le baiser du réalisme et de l'idéalisme. C'est extraordinaire. Le Legetein qui assume le Toeinein. Ils se sont embrassés. Dans la relation. Je crois que là, on touche, voyez, cette chose très étonnante de voir ce déclin de la philosophie qui n'est plus qu'une philosophie logique. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la philosophie moderne? Uniquement la logique. Il n'y a plus que ça d'intéressant. Le reste, c'est constamment quelque chose qui n'a plus de signification. La logique repose tout entière sur la relation de raison. La logique repose tout entière sur l'universel, relation de raison. Ça, il faut bien saisir ça. Alors, pourquoi ça s'est fait? La théologie ayant exalté la relation, comme saint Thomas l'a fait. Mais le grand coupable, c'est Thomas d'Aquin. Vous voyez dans quel sens je veux le dire, hein? Il a exalté la relation de façon étonnante. Je dis, on serait tenté de dire... Thomas d'Aquin, le théologien de la relation. Ce serait très moderne, ça. Ça renverserait toutes les positions. Et c'est vrai, ce qui est bon. Théologien de la relation. Laïciser Thomas d'Aquin, vous avez l'idéalisme moderne. Vous avez Hegel, vous avez Hamelin. Saint Thomas maintient la simplicité dans la relation. Il maintient la substance comme première affirmation. Le De Deo Uno, le traité de Dieu dans son unité, dans sa simplicité. Il maintient ça. Dieu est un, absolument simple. Et Dieu est un, absolument simple. C'est la substance de Dieu. Donc c'est là le jugement d'existence, l'ipsum esse subsistens. Celui qui existe en lui-même, qui subsiste en lui-même, dans sa simplicité absolue. Et celui-là porte en lui tout ce mystère de la fécondité divine, le Fils et l'Esprit Saint, qui proviennent du Père. Ce Père qui est grand-père, et c'est vrai, chose étonnante, Abraham préfigurant cela, mystérieusement, cette chose, cette double génération, cette presque on dirait, on peut pas dire ça, cette double procession, génération, inspiration, à l'intérieur de la simplicité. Laïciser cela. Alors vous avez Je crois que c'est important de saisir cela, parce que ça nous aide justement à comprendre comment le plus petit remplace le premier. Le dernier remplace le premier. Le maître et l'esclave. Si le relatif est prosti, entier relatif. Il est l'esclave métaphysique. Qu'est-ce que c'est que l'esclave? C'est celui qui est tout entier relatif à son maître. Et n'est plus que relatif à son maître. Si l'esclave pense, il est un être qui est parasite relatif à son maître. Tout entier tourné vers lui. Comme dit le psaume, le serviteur qui ne regarde que son maître et qui attend tout de lui, il est prosti et tourné vers. Or, dans la dialectique hégélienne, on voit comment l'esclave prend la place du maître. Alors, toute l'histoire de la pensée européenne, c'est l'esclave qui prend la place du maître, le relatif qui prend la place de la substance. Et donc, j'allais dire historiquement égal à raison. Métaphysiquement, Thomas d'Aquin a raison. C'est les deux grands penseurs qui nous permettent de saisir comment, quand l'ordre génétique devient le seul ordre de pensée, Hegel a raison. Mais si, à côté de l'ordre génétique, je maintiens un ordre de perfection, je comprends que Thomas d'Aquin a raison. Vous voyez, c'est capital pour nous de comprendre ça. Si on comprend ça, on a la clé, ou les deux clés, parce qu'il y en a deux, l'ordre génétique et l'ordre de nature, de tout ce qui se passe autour de nous. Évidemment, c'est le sommet, je suis d'accord. Mais c'est le sommet qui explique tout. Le reste, c'est des choses secondaires. Alors regardons Hamelin pour mieux saisir cela. Parce que Hamelin, pour nous, hein, en tant que Français, puis Hamelin, c'est une pensée claire. C'est pas celui-là, il est petit-fils de Descartes. Par les mathématiques, le modo geometrico, pour Descartes, c'est ce qu'il y a de plus grand. Ce qu'il y a de plus grand. Descartes est un méta-géométrique. Pas métaphysique, mais méta-géométrique. Le modo géométrico de Descartes. Dans le système idéaliste d'Hamelin, pour qui le connaître est partie intégrante de l'être, l'élément premier n'est pas l'être, mais la relation. L'élément premier. Donc le logos d'Hamelin, c'est la relation. Il n'y a d'intelligence que la relation, dit Hamelin. Hamelin part de la relation, être abstrait et indéterminé, pour aboutir à la conscience qu'est l'être concret, actualisation plénière de la relation. Et c'est dit clairement, ça. Sans aucune difficulté. Tout le monde peut comprendre Hamelin. Hegel, je ne dis pas. Mais Hamelin, oui. Alors Hamelin est peut-être pour nous le sycomore pour étudier Hegel. Si vous connaissez bien Hamelin, si vous l'avez bien pensé, vous entrerez. Et on c'est très très net. On part de la relation être abstrait et indéterminé. Vous voyez, le legetail est abstrait, indéterminé, parce qu'il a besoin d'un support. Tout être qui a besoin d'un support est indéterminé, il est relatif à. Pour aboutir à la conscience qui est l'être concret, et la conscience remplace la substance. Aristote dit ça admirablement dans le livre de Zeta, quand il dit, si toutes les réalités étaient des œuvres d'art, l'idéant serait substance. Et l'idéant, c'est la conscience de l'artiste. L'artiste n'a conscience que grâce à son idéant. Et dans son idéant, il a conscience qu'il est artiste. Et c'est son idéant qui le dirige, qui est sa conscience d'artiste. Et l'idéant est substance. Pour aboutir à la conscience qui est l'être concret, actuation plénière de la relation. Son système, qui est une dialectique synthétique, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est une dialectique synthétique, se présente comme une sorte de preuve ontologique visant à établir que l'être, c'est l'esprit, et l'esprit en tant que conscience. Hegel dit aussi que toute sa philosophie est une preuve ontologique. Et on se retrouve dans quelque chose de tout à fait semblable. Et pas analogiquement, tout à fait semblable au niveau de chez. D'une façon tout à fait univoque. Donc se présente comme une sorte de preuve ontologique visant à établir que l'être, c'est l'esprit. L'être pour soi et l'esprit en tant que conscience. Elle impose ainsi un esprit qui embrasse tout, qui est tout et qui donc en ce sens est absolu, à condition que l'on entende par absolu non pas l'indéterminé échappant à toute relation, mais au contraire ce qui contient en soi toutes les relations. L'absolu, c'est la synthèse des relations. C'est le système unifié de toutes les relations. Une axiomatique parfaite. Soyez révolutionnaire jusqu'au bout. et le premier élément des choses, le rapport, ne peuvent faire qu'un. Les choses sont donc constituées de rapports. Tout est relatif. C'est en continuité avec la science. Il y a une continuité. C'est une méta-science. Et le premier principe de la méthode, donc de la dialectique synthétique, et que la méthode c'est la dialectique synthétique, le premier principe c'est le principe de l'opposition. L'opposition comme telle, Aristote distingue diverses oppositions, la contradiction, la privation, les contraires, les relatifs. Eh bien, on fait la raison de l'opposition. Tout est dans ce point de vue-là. Parce que je crois que ça, c'est très très important. Hamelin dit ça, ce qui nous fait comprendre, voyez. Vous voyez bien, dans les post-prédicaments d'Aristote, hein, faut toujours avoir ça devant l'esprit. Donc vous avez les oppositions. L'opposition de contradiction. L'opposition de privation. L'opposition de contrariété. L'opposition modalités d'opposition. Cherchez, vous n'en avez pas d'autres. Si vous en inventez, vous me le direz. L'opposition de contradiction, c'est au niveau de l'être. C'est l'opposition la plus absolue. L'opposition de privation, c'est au niveau de la forme, de la qualité. Qualité. Qu'est-ce que c'est que la non-qualité? C'est la privation. Donc c'est au niveau de l'avoir. L'être, l'avoir. L'opposition de contrariété, c'est au niveau du devenir. Alors vous avez le plus. Sujet qui porte les deux contraires. Puis vous avez l'opposition des relatifs. L'opposition des relatifs, c'est à l'intérieur de la relation comme telle. C'est dans l'ordre de l'amitié. Les deux amis. Faut être deux pour être amis. L'opposition relative n'existe qu'à travers deux. La dualité qui devient première, l'opposition des relatifs. Vous voyez, là vous avez les modalités de l'opposition. Les diverses modalités. Je peux chercher la raison d'opposition. La ratio. J'ai l'opposition comme telle. Hamelin affirme que le premier principe de la méthode, le principe de l'opposition, c'est bien la raison d'opposition. Et le premier élément des choses, le rapport, ne peuvent faire qu'un. Dans tout et dans la relation. Tout est dans ce qui fait que je peux me distinguer d'un autre. La diaphora, la distinction, ce qui me distingue d'un autre. Je n'existe que dans ma distinction. C'est pour C'est que si l'autre disparaît, moi je disparais. Parce que je n'existe que relative à lui. Il y a des êtres comme ça, qui ne se sont jamais trouvés. Ils ne vivent que comme des parasites, relatifs à l'autre. La raison d'opposition. Ils ne se sont jamais trouvés eux-mêmes. Alors ils pleurent parce qu'ils ne trouvent jamais l'autre. Mais trouvez-vous d'abord, et vous trouvez l'autre. Ils cherchent indéfiniment l'âme sœur. Et comme elle n'existe pas, ils pleureront tout le temps. Ils sont tout le temps dans cette attitude-là. Parce qu'ils ne se trouvent pas. Ils ne se sont pas trouvés. C'est terrible. C'est simple. C'est ça notre monde moderne. La modernité, c'est ça. On ne se trouve soi-même que si on trouve l'autre. Et si vous êtes parasite, vous ne trouverez jamais l'autre. Parce que l'autre disparaîtra au moment même où vous le trouvez. C'est extraordinaire, ça. Trouvez-vous vous-même d'abord. Oui, c'est magnifiquement dit dans Hamelin, vous savez ça. Il faut réfléchir là-dessus. Je vous dis, Hamelin, il est génial de clarté. Il voit pas tout ce que ça veut dire, hein, ça, comme conséquence, hein, non. Il est très calme. Extrêmement calme. Mais il voit pas qu'en faisant ça, il fait tout sauter. Il n'y aura plus rien. La destruction, ça commande la destruction. Mais Hamelin entend professer un idéalisme réaliste. C'est ça qui est le mieux. Un idéalisme pragmatique, concret, n'admettant aucune idole, fût-ce celle de la relation. Car la relation n'est pour lui, comme tous les noms analogues, nombre, temps, etc., qu'une autre désignation, un peu moins déterminée, de la synthèse en général, de la totalité de la durée, etc. Contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, thomistes. Hein, il a dit, hein, il dit pas thomiste, mais contre le prétendu réel des écoles dites réalistes, Hamelin affirme que la réalité vraie est le rapport, plus ou moins riche, d'un contenu qui fait corps avec lui, parce que ce contenu est lui-même rapport. Je n'existe que relatif à un autre. Et si je n'ai pas découvert cet autre, je n'existe pas. Je ne suis rien. C'est terrible. C'est affolant. Je n'existe que relatif à un autre. Alors, je comprends très bien. Si je n'existe que relatif à un autre, l'autre, c'est celui dans lequel je m'engouffrais. Alors quand l'autre comprend que cet autre veut s'engouffrer en vous, il fuit à toute vitesse pour sauver sa peau. Et donc vous ne le découvrez jamais. Vous ne découvrez que la fuite. C'est terrible, psychologiquement. Il faut saisir ça. Vous voyez, la raison d'opposition. Et Hamelin est terriblement français. Terriblement. Il est cartésien. Pas du tout, je peux dire Hamelin qu'il est cartésien. Je dirais Descartes a permis Hamelin. Oui, ça c'est vrai, je crois. Descartes a permis Hamelin. Comme Descartes a permis Hegel. Alors vous avez là, quelque chose qui est très important à saisir, le caractère essentiel du rapport et l'impuissance d'être l'un sans l'autre.